Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de l'Internet libéré. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Hello.
De Pixel.
Ah, je me sens moins seul grâce aux commentaires.
D'ATH.
Salut à tous.
Et de Morren.
Bonjour, bonjour.
Eh oui, podcast assez chargé cette semaine, n'est-ce pas, en staff de Game Info. Profitez-en, ça va pas durer. Donc, juste pour information, il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière. Et pourquoi il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière? Parce que je n'avais plus d'internet. Si jamais vous avez un souci avec Orange et que chez Orange, on vous dit que le problème vient de chez vous, il y a de fortes chances qu'en réalité, ça vienne de chez eux. Voilà, ça c'est dit. Donc, au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons d'une sortie officielle sur Super NES. On enchaînera ensuite sur un FPS multijoueur orienté survie. Nous évoquerons également Dynasty Warriors 9. On parlera de Dignity Original Sin 2. Du côté de la réalité virtuelle, on parlera de Resident Evil Vendetta Z. Alors, pour être honnête avec vous, en réalité, c'est une news prétexte pour faire un peu l'état des lieux de la VR, n'est-ce pas? On enchaînera ensuite sur l'annonce de Destiny 2. On évoquera le cas de Elex, un RPG AA développé par les créateurs de Gothic, qui a le cul un peu entre deux chaises au niveau budget, et on parlera d'une manière plus générale, est-ce que les AA, s'ils ne sont pas ultra fignolés, ont encore leur place dans l'industrie? Et enfin, pour terminer, on évoquera le cas de Far Cry 5 qui a été dévoilé là tout de suite maintenant aujourd'hui. Enfin non, en vrai, parce que je précise, on enregistre le vendredi, il y a eu des leaks. Donc on a eu le trailer officiel aujourd'hui avec plusieurs petits trailers sur les différents personnages, tout ça. Et on a eu quelques infos sur le jeu. Voilà, voilà. Bon, avant de commencer, je voudrais passer relayer une annonce, n'est-ce pas ? Il y a une demande qui m'a été faite à laquelle je vais exceptionnellement répondre, et je dis bien c'est exceptionnel, hein. Cette demande, elle nous a été faite par un étudiant, n'est-ce pas? Et cet étudiant prépare un mémoire sur la fantrad. Donc je vous mettrai un lien dans la description de l'émission vers le fameux sondage, sachant que je tiens à préciser une chose, personnellement je suis pas fan du fait de dire quel est mon taf par exemple. Et je vois pas trop ce que ça apporte au truc, mais bon, ça n'est que mon avis, c'est d'ailleurs pour ça que je n'y ai pas répondu. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé et que vous voulez rendre service, vous pouvez vous rendre sur le lien que je mettrai dans la description de l'émission. Voilà, ça, c'est fait. Allez, c'est parti, on va commencer avec, mon cher Pixel, une news.
D'un jeu qui revient d'entre les morts.
D'un jeu Super Famicom, qui sort au Japon.
Il s'agit de Shoobibin Man, qui est un jeu d'action plateforme en deux dimensions, qui est sorti en version physique sur PC Engine, hein, pour les rétro gamers qui connaissent, mais il était sorti aussi dans les années 90 sur Super Famicom, mais pas en version cartouche commerciale. Il était sorti en version Satellaview. Alors le Satellaview, pour ceux qui connaissent pas, c'était un accessoire qui était disponible qu'au Japon, qu'on branchait sur sa Super Nintendo, et on branchait ensuite le Satellaview sur la prise téléphonique, et on pouvait télécharger à l'époque, au début des années 90, des jeux vidéo grâce à sa Super Nintendo, des jeux vidéo exclusifs à la Super Famicom en fait, et dont ce Shoobibin Man justement. Et il n'avait jamais eu l'occasion d'avoir sa sortie officielle sur cartouche, et là bah, pour les 20 ans de la sortie, enfin plus de 20 ans d'ailleurs, le jeu sort enfin officiellement, uniquement au Japon, au mois de juin, là, 2017, en cartouche, Super Famicom, avec la cartouche d'époque, la boîte d'époque, et tout est officiel, pour environ 60€. Alors, si vous êtes au Japon, hein, bien sûr, si vous le faites venir en Europe, vous pouvez compter au moins le double. Ça me fait plaisir, parce que ça fait de ce Shoobibin Man le dernier jeu officiel pour la Super Famicom. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que vu que c'est le dernier jeu Super Famicom et qu'il sort en 2017, que c'est un jeu retro gaming, et qu'on sait tous à quel point les jeux retro gaming parfois ils peuvent coûter cher, je pense, sans trop me planter, que dans les mois à venir, le prix du jeu va exploser sur eBay et compagnie, quoi. Malheureusement. Alors, il est à 60€, mais je pense qu'il va être certainement vendu à très peu d'exemplaires, parce que ça intéresse vraiment plus grand monde, ce genre de jeu, quoi. Et le prix va exploser, tu vas le retrouver à $400-500 sur eBay, donc Si vous avez envie de l'acheter, vous pouvez le précommander, mais vous pouvez l'acheter dès qu'il sortira au Japon, si vous avez la chance de pouvoir l'acheter sur un site spécialisé, quoi, qui vend des jeux japonais. Ou alors, si vous êtes de passage au Japon, au mois de juin, vous pouvez l'acheter, si vous arrivez à le trouver. Mais sans quoi, si vous attendez le mois de juillet, il y a de fortes chances que vous ne le trouviez plus du tout en boutique et que ça va vous coûter la peau du cul.
Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, disponible dans 6 mois sur eBay à 1000 balles, voilà. Profitez. Voilà. Moi je vous le dis, vous allez au Japon, vous le gardez sous blister, et il y a des chances que vous remboursiez le billet dans quelques mois.
Ouais, et même que vous fassiez du bénéf.
Voilà, bon, après moi je trouve ça sympathique, le seul truc qui me gêne avec ce genre de ressortie, c'est que, en dehors de l'aspect collectionniste, on va dire, je m'interroge parfois, bon, là, il se trouve que c'est un jeu qui existait déjà sur la machine, donc c'est pas mal après tout pour les collectionneurs.
Ouais. C'est un portage.
Par contre, il y a une pratique avec laquelle je suis beaucoup plus dubitatif, c'est, tu sais, tous les jeux, les nouveaux jeux qu'on ressort aujourd'hui. Je me rappelle à une époque, j'avais financé un certain Pierre Solar, et avec le recul, je me dis, franchement, j'aurais pas dû financer ce truc, quoi, parce que, en fait, c'est un RPG avec toutes les contraintes techniques de l'époque. Alors certes, qui exploite la machine, mais bon, est-ce que ça a vraiment un réel intérêt aujourd'hui? Surtout qu'on a une époque où maintenant, si on veut retrouver cette esthétique, tu sais, 16 bits, il y a plein de jeux qui le font, qui tournent sur des machines modernes. Donc, en dehors de l'aspect collectionniste, bon, est-ce que ça a un réel intérêt? Je suis pas sûr, quoi.
Ça reste à voir. Ça reste à voir.
Bon, allez. On va enchaîner sur une news par rapport à Vanquish. Parce qu'il se trouve que Vanquish est sorti, ça y est. On s'interrogeait sur la qualité du portage PC. Il y a eu une vidéo, comme d'habitude, de Digital Foundry pour voir un peu de quoi il en retournait. Et apparemment, le portage PC est de qualité. Voilà. Il tourne à 60 FPS nickel. Vous me direz encore heureux, mais connaissant les Japonais, je vous dis que c'est pas garanti. Hein. Ma foi, c'est une bonne nouvelle. C'est un excellent jeu. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous aimez bien un bon vieux TPS, mais avec des mécaniques originales, hyper péchues, et surtout si vous adhérez à la philosophie du scoring, je pense que ça vous fera plaisir. On vous avait déjà fait l'article avec ATH. Dwayne, tu as quelque chose à dire ?
Bah, juste pour reconfirmer, hein, c'est-à-dire que il y a des moments où on se demande peut-être est-ce que c'est par nostalgie ou est-ce que vraiment le jeu tient la route. Et ouais, ça, franchement, je l'ai retesté. Bon, là, j'ai juste fait 2 heures pour l'instant, mais ouais, je l'ai repris. En plus, au niveau des textures, c'est même mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que là, je l'ai fait monter en 4K, 60 FPS. C'est actuel, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas cette impression que c'est un ancien jeu. Ça donne vraiment une impression d'un jeu actuel correct, quoi. Donc, c'est vraiment bien parce que à l'époque, Vanquish, il était super bon, mais l'aspect très rapide était un peu en contrasté avec la technologie qu'on avait à l'époque. Et franchement, ça défonce, donc allez-y si vous l'avez pas fait, et allez-y si vous l'avez déjà fait.
Bah, disons que là, c'est un véritable intérêt, parce que le jeu, il tournait pas forcément en 30 FPS stable à l'époque. Et là, l'avoir en 60 FPS, surtout quand on sait à quel point le jeu est péchu, bah ça a un véritable intérêt d'un point de vue gameplay, quoi. Pixel ?
Ouais, alors je voulais dire que je l'ai acheté.
Tu l'as fini même ?
Voilà, je l'ai déjà fini. Il m'a fallu 4h30 hein, pour le finir en difficulté normale, et sans me presser en plus, j'ai même pas rushé, alors que j'avais pas joué au jeu depuis, je sais pas, des années, mais vraiment des années, quoi. Le portage est bon, vraiment bon, j'ai une GTX 970, et le jeu tourne entre 90 et 150 FPS, ça dépend de ce qu'il y a à l'écran affiché, quoi. Je suis monté en 1440p, le jeu est toujours à 60 FPS, enfin, entre 60 et 70. Je suis monté jusqu'en 4K, juste pour voir ce que ça donnait. Bon, là, je dépasse pas les 50 FPS, avec tous les détails à fond, bah, sauf l'anti-aliasing que je vire toujours et la V-Sync que je désactive toujours, mais ça prouve que, voilà, on peut jouer en 4K si vous avez, on va dire, au minimum une 980, voire une 1070, vous pouvez jouer en 4K à 60 FPS, y a pas de problème. Et le jeu est jouable au clavier à la souris, d'ailleurs, je l'ai fini au clavier à la souris, le jeu est très réactif, c'est très précis avec la souris. Le jeu est plus facile, d'ailleurs, qu'avec une manette.
Ah bah ça, tout de suite, dès que t'as un pointeur qui va là où tu veux, voilà. J'imagine que... voilà.
Ça, c'est tout de suite beaucoup mieux, et on souffre pas de ne pas jouer avec des sticks analogiques au clavier, ça répond vraiment bien. il n'y a pas vraiment de problème. Bah, j'ai pas vu de bug. Le jeu, il n'a pas crashé. Il est bien fignolé. Alors, bien sûr, je suis allé voir sur les commentaires Steam. Il y a des gens qui ont des problèmes. Bien sûr. Il y a toujours des gens qui ont des problèmes, surtout ceux qui utilisent des ordinateurs portables. Bon, bah là, on peut pas faire grand-chose. Hein. Le jeu, même s'il est bien fini, même s'il est bien optimisé, il demande quand même une grosse carte graphique. Si vous avez une GTX 750, ça va être limite.
Alors, ça dépend en quelle résolution tu joues, parce que justement, ouais. Si tu regardes la vidéo Digital Foundry, ils ont essayé avec des vieilles configs. Et ça tourne franchement de manière très correcte quoi en 1080p ça va quoi.
Donc, ça va mais c'est pas toujours à 60 hein, avec une 750.
Bah si tu veux c'est déjà beaucoup mieux que le jeu à l'époque sur 360 et PS3.
Ouais, ça marche mieux que sur ouais, ça marche mieux.
Quand même quoi,
que sur que les versions
consoles.
C'est
pas dégueulasse non plus.
À la limite vous pouvez baisser quelques éléments graphiques parce que le jeu de toute façon, il va tellement vite que vous êtes pas là pour regarder les graphismes, vous êtes là
alors,
pour enchaîner les frags.
Alors apparemment si vous voulez gagner pas mal de FPS, c'est surtout sur les ombres qu'il faut jouer.
Ouais. Vous pouvez les mettre au minimum de toute façon comme je l'ai dit. Ce jeu-là, vous y jouez pas pour les graphismes, vous avez pas le temps, tellement il est rapide. Vous y jouez pour le frag et le power slide, et c'est tout à la limite. Voilà, si vous avez une carte graphique un peu ancienne, vous pouvez sacrifier le graphisme, vous vous en foutez.
Bon, allez, on va enchaîner Pixel, et on va évoquer un jeu que tu attends. Un jeu qui est connu, hein, mais on s'est dit que c'était l'occasion d'en parler, parce que moi aussi c'est un jeu que je surveille, c'est Escape from Tarkov. Alors, pour vous présenter un peu l'article, Pixel, je crois que c'est un FPS multijoueur.
C'est ça.
Orienté survie, mais attention, pas la survie comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire les jeux obscurs auxquels joue Mordren là, en Early Access. C'est plus survie, mais de manière beaucoup plus cadrée, quoi, on va dire.
Alors, Escape from Tarkov, c'est FPS multijoueur orienté survie. On peut y jouer selon les missions, soit contre des humains, soit contre l'IA. On peut y jouer en solo, en offline.
D'accord.
Et j'ai vu quelques vidéos où l'IA est quand même pas mal agressive, mais ça dépend des moments, hein, parce que le jeu, de toute façon, il est encore en alpha, ils ont le temps de tweaker l'IA, quoi. Mais c'est un FPS qui se déroule, en fait, dans un avenir plutôt proche. Dans une ville fictive qui s'appelle Tarkov, c'est en Russie, et la ville de Tarkov a été encerclée par l'armée. Plus moyen d'y rentrer ni d'y sortir, sauf bien sûr si vous êtes mercenaire et que vous êtes envoyé par des sociétés peu scrupuleuses qui ont envie d'aller piller la zone de Tarkov, quoi. Donc vous jouez le rôle d'un mercenaire qui est là et qui a des missions. Parce que c'est un jeu à mission, et vous commencez du point A, vous avez un objet que vous transportez sur vous, et vous devez aller au point B. Avant le temps imparti, parce que toutes les missions sont chronométrées.
Et en face, il y a soit donc une IA, soit des joueurs. Et personnellement, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le concept, c'est voilà l'idée que tu vas jouer contre des joueurs en face, mais que t'as une mission. Enfin, l'objectif, c'est pas de tuer les joueurs, c'est d'arriver au bout. Il va falloir que tu gères au mieux, quoi, on va dire.
Ouais, parce qu'ils ont quand même poussé. Alors, c'est un FPS, donc il y a des flingues, énormément de flingues, qui sont extrêmement bien modélisées. Et la modification des armes à feu est vraiment extrêmement poussée. C'est-à-dire que tu vas pouvoir la voir et la démonter dans tous les sens. Tu vas pratiquement pouvoir changer toutes les pièces de ton arme. Par exemple, quand tu récupères des chargeurs, les chargeurs ne sont pas tout le temps remplis. Parfois ils sont vides, parfois ils sont remplis à moitié. Tu peux les garder sur toi, même s'ils sont vides, et tu peux les remplir de nouvelles balles, mais les balles, pour les récupérer, tu peux les transférer d'autres chargeurs ou tu peux les transférer de boîtes à munitions que tu dois trouver, parce que le jeu t'incite quand même pas mal à découvrir les lieux, à farmer quand même pas mal tes armes et tes munitions. Tu peux aussi tuer l'IA ou les ennemis humains pour les looter.
Alors, par contre, farmer, va falloir être prudent, parce que c'est permadeath, hein. Donc,
voilà,
c'est un jeu où si tu meurs, t'es mort, tu perds ton perso.
Voilà. Mais, par exemple, si t'arrives à finir ta mission dans le temps imparti, tu conserves tout ton loot jusqu'à la prochaine mission. Et la mission, le jeu, c'est pas sur un monde ouvert, hein. C'est sur des petites maps. J'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a avoir genre une dizaine, peut-être une quinzaine. Et pour l'instant, il y en a que 3 dans l'alpha fermé, qui a cours pour l'instant. Et tu choisis l'une des 3 maps, et tu peux te balader dans ces 3 maps, mais tu peux pas le faire indéfiniment, puisque les missions sont chronométrées.
Tu vas devoir gérer ton matos, tu vas devoir gérer tes munitions aussi. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu dois traverser la map. Et si tu rencontres d'ennemis, des fois il va falloir essayer d'éviter les autres joueurs ou enfin voilà, il y a toute une notion aussi, tu sais, d'observation de la map, tu vas devoir choisir ta route, etc. Moi, je suis très, très, très attiré par le concept. Ouais. Après, c'est un jeu, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Je suis pas sûr qu'il sorte un jour, donc c'est aussi pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que pour le moment, on manque de concret, et surtout, pour y accéder, ça coûte très cher à l'heure actuelle.
Voilà. Là, je veux venir, c'est qu'il y a 4 packs pour l'instant. Le moins cher, il doit coûter dans les 35€, et le plus cher, il coûte 100€. Alors, les 4 packs te permettent tous d'avoir accès à la future bêta. Par contre, il y a que le numéro 2, 3 et 4 qui te permettent d'accéder à l'alpha qui est en cours. L'alpha fermé.
Et c'est les plus chers, bien évidemment.
Et c'est les plus chers, sauf que le pack numéro 2 te donne 50% de chance d'y accéder, et le pack numéro 3 te donne 75% de chance d'y accéder.
T'es même pas sûr d'y accéder en plus, c'est magnifique.
Ouais. Hein, et le pack à 100€ te donne 100% de chance d'y accéder, enfin tu as un accès immédiat à l'alpha privé.
Voilà.
Voilà. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant.
C'est un peu chiant, c'est un peu abusif surtout, quoi.
Ouais, délire abusif. Quoi. Enfin, c'est... Et mais c'est pas perdu pour autant, parce que je suis allé sur les forums des développeurs du jeu, et de temps en temps ils offrent des clés pour l'alpha en cours. Mais il y a quand même un hic, c'est que certes tu peux accéder gratuitement à l'alpha, mais cette clé n'est valable que pour l'alpha. C'est-à-dire qu'une fois que l'alpha est terminée, ta clé, tu pourras te la mettre derrière l'oreille, elle te servira plus à rien.
D'accord.
C'est dommage.
ATH, tu as quelque chose à dire ?
Depuis quand, en fait, jouer aux jeux vidéo s'assimile à jouer au loto, en fait ? C'est... Enfin, voilà, quoi. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est-à-dire, tu payes ton jeu 2€, t'as 2% de chance de voir la fin du jeu ? Enfin, quand même, on part dans des dérives un peu... Je sais pas, t'achètes un produit pour soutenir en plus ça les développeurs, et là en fait t'achètes un truc, et par exemple si t'as pas assez de moyens, t'achètes ta bêta à 50 balles, t'as une chance sur 2, ok, super, donc moi je suis là pour vous donner un coup de main financier les gars, et en plus de ça c'est pas sûr que j'y joue, mais allez vous faire foutre quoi, sérieusement.
Bah, disons que moi là où ça me pose encore plus, déjà à la base si tu veux l'accès anticipé c'est une pratique qu'on peut critiquer, parce que il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui que quand même le playtest normalement c'était quelque chose de payant et tu rends service aux développeurs, donc ce en quoi ils n'ont pas tout à fait tort, n'est-ce pas? Et là on est au cran au-dessus en fait, c'est-à-dire que non seulement tu payes pour avoir accès à l'anticipé, mais t'es pas sûr d'y avoir accès en fait, et ça me paraît un peu... Voilà, j'avais oublié ça en fait, j'avais oublié cette histoire, et surtout, moi ce qui me fait peur, c'est que si on commence comme ça, qu'est-ce que ça va être quand le jeu va sortir vis-à-vis du modèle économique, quoi.
Non mais t'imagines le mec qui, enfin, pour moi, enfin celui qui se fait plus couillonner dans l'histoire, c'est celui qui paye 75 balles en fait. Parce que celui qui paye 75 balles, imagine t'es dans les 25% des mecs qui ont pas le jeu, alors qu'il y a d'autres pauvres gars qui ont mis 50 balles, ils ont le jeu. Enfin, là franchement, c'est la première fois que j'entends une histoire comme ça par rapport à un jeu en accès anticipé. Quelle est la prochaine étape, quoi? C'est ça qui fait peur, c'est que il faut vraiment mettre un stop à des pratiques commerciales comme ça, ce que je trouve totalement honteuse pour le jeu vidéo, quoi. C'est personnellement, je mettrais pas un rond là-dessus, quoi. Juste parce qu'il y a cette pratique que je trouve nulle, c'est tout, quoi.
Pixel, d'ailleurs, je crois que tu avais une annonce à faire.
Ouais, bah je vais en profiter parce que alors.
Comme tu refuses de payer ta clé.
C'est pas que je refuse, c'est que j'ai envie d'économiser de l'argent, tu vois. Donc, j'en appelle à nos chers auditeurs. Qui sait, par miracle, si vous, auditeurs...
Il est sérieux, je crois que tu blagues.
Non, je blague pas. C'est mal fait. Oh, si jamais, l'un de nos auditeurs aurait une clé pour l'alpha, mais juste pour l'alpha, hein, c'est pas genre, ils achètent le jeu puis ils me filent la clé. Ça, non. C'est juste pour l'alpha. Si jamais vous avez la clé, vous, et que vous savez pas quoi en faire, justement. Vous pouvez la contacter GameInfo via l'onglet contact, et puis c'est le tyran va la récupérer, il va
je vais la garder pour moi.
Voilà, il va la garder pour lui. Il va la garder pour lui, puis il va la revendre.
Ouais, donc fais mieux, tu la revends à 100 balles.
Ah, bah oui, je vais faire un bail de
100% de chance de l'avoir, les mecs.
Non, mais là, super, les gars. Maintenant, Game Info, le resto du jeu vidéo. Mais putain, arrêtez, quoi. C'est quoi la prochaine étape? On va mendier directement chez les gens pour qu'ils nous donnent de l'argent. Wow.
Le sous-titre de la semaine, ça va être bonjour. S'il vous plaît.
Une clé, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Oh merde. Pour rester digne.
Ouais, bah là, la dignité, ça fait longtemps qu'on l'a perdue.
Bon, allez.
Elle est très loin, la dignité, allez. Effectivement.
Allez, on va passer à la suite. Même si je vous avoue que mon concernant, ça va être dur. Respire. Donc, mon pixel, tu vas garder la parole.
Il faut les excuser, il fait extrêmement chaud aujourd'hui.
Ouais, bah, si t'aurais pas, fait de mode comme ça, je pense pas qu'on serait mort de rire, donc.
Ah, mais moi, je me demandais s'il allait assumer jusqu'au bout, il assume, hein.
Ah, mais moi, j'assume, hein. J'assume, je suis sérieux. Alors,
Pixel.
S'il y a moyen de récupérer une clé pour l'alpha, donnez-la-moi, hein. Il n'y a pas de problème.
Alors, donc, Pixel, on a une news sur Dynasty Warriors 9. D'habitude, on parle pas des Musou dans cette émission. Vous savez que c'est pas un genre qu'on affectionne particulièrement. Mais il se trouve que ce prochain Dynasty Warriors a quelques features qui pourraient être sympathiques.
Voilà. Ouais, alors, déjà, c'est un monde ouvert. Contrairement aux anciens Dynasty Warriors qui se passaient sur des petites cartes. Donc, on va pouvoir aller partout où on veut dès le début. Enfin, j'imagine qu'on va pouvoir aller partout dès le début. Et sans quoi, il y aura de l'infiltration, vous avez bien entendu, de l'infiltration dans un Dynasty Warrior où tu passes ton temps à buter des mecs qui ont pas de cerveau.
Mais c'est quoi, c'est genre des trucs pour préparer le champ de bataille ou ce genre de choses?
C'est assez mal expliqué, en fait, c'est tout ce qu'on sait, c'est que il y aura de l'infiltration, donc je demande à voir.
Ça peut être intéressant, par exemple, si tu dois infiltrer un château. Le fait, par exemple, de saboter le pont-levis, enfin, tu vois, ce genre de conneries, quoi.
Avant une bataille, ça pourrait être intéressant, histoire d'avoir l'avantage, mais bon, on verra ce que ça va donner. Et sans quoi, l'autre nouveauté, c'est que le mode histoire, en fait, il sera pas linéaire. Et que l'histoire va changer en fonction des missions que tu vas choisir. Donc, tu auras certainement des embranchements, tu devras choisir entre deux missions, et ça fera changer l'histoire, quoi. Et la fin.
Alors... ça peut être intéressant, on voit qu'ils ont la volonté de varier le gameplay. Par contre, moi, là où je m'interroge, c'est le côté, comment dire ça? Est-ce qu'on va pas, au final, se retrouver avec un jeu en monde ouvert, où le monde ouvert ne fera que 18 expériences, en fait? Le problème, c'est que je trouve que très souvent, on te fout des mondes ouverts dans des jeux où ils apportent rien, voire même pire, ils nuisent à l'expérience, et bon, j'espère qu'il fera pas partie de ceux-là, quoi. Voilà. On passe à la suite, messieurs. Et je vais vous parler maintenant de Divinity Original Sin 2. Divinity Original Sin 2 a une date de sortie. Il sera disponible le 14 septembre. Alors, inutile de vous dire que c'est un jeu que j'attends avec impatience. J'ai beaucoup aimé le premier, même s'il était perfectible sur pas mal de points. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'attends sa suite. J'espère qu'ils y corrigeront. Et surtout, je l'attends beaucoup. Pourquoi ? Parce que il aura le fameux Game Master Mode. Alors, qu'est-ce que c'est le Game Master Mode ? Eh bien, tout simplement, vous avez joué à Neverwinter Nights. Eh bien, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mode qui permettra de créer ses campagnes de jeux de rôle avec du système Donjons et Dragons, d'ailleurs, que vous pourrez mettre sur le jeu. Et comme le jeu est modable, si ça se trouve, on pourra greffer d'autres systèmes de jeux de rôle papier là-dessus. Donc, je trouve ça très intéressant. Et puis surtout, bon, voilà, quoi, un outil comme ça que tu vas pouvoir utiliser pour jouer avec tes potes et tout. Alors, même si je pense que ça demandera pas mal d'investissement, bah, ma foi, ça m'intéresse beaucoup. Et ce d'autant plus que s'il y a une communauté qui se greffe là-dessus, ça pourra donner des campagnes faites par les joueurs qui seront cool, quoi. Donc j'attends beaucoup, surtout que même par rapport au jeu de base, j'aimerais bien y jouer en coop avec Morren. Alors il faut savoir qu'on avait commencé une campagne coop tous les deux sur le premier, mais qu'après qu'une certaine personne ait tué un poulet et que la ville entière se soit mise à nous défoncer, on a laissé tomber, voilà. Donc j'espère que cette fois, Morren, tu sauras restreindre tes ardeurs.
je n'ai fait que tester. Voilà.
Ouais, tu l'as fait que tester. En attendant, tous les putains de PNJ de la ville nous ont essayé de nous tuer parce qu'on avait buté un poulet, quoi.
Je remarque qu'on n'avait pas effectué de sauvegarde préalable. Voilà.
Voilà.
La faute est partagée. Ouais. Mais oui, je confirme que Divinity Original Sin 2, c'est quelque chose de très intéressant. On va pouvoir, a priori, télécharger les campagnes que les éditeurs vont faire. Donc vraiment, on sent que le studio pousse encore plus loin et c'est intéressant.
Et surtout, la campagne qu'on peut jouer en coop, moi ce que je trouve cool là-dedans, c'est que cette fois, contrairement au premier, tu sens qu'elle a vraiment été conçue pour être jouée en coop. C'est-à-dire que dans le premier, t'avais quand même quelques mécaniques un peu gimmick, tu vois, genre le pierre-papier-ciseaux... pour décider ou ce genre de choses. Là, t'as vraiment un système de dialogue qui est conçu autour de l'idée que les joueurs peuvent avoir des intérêts divergents et surtout qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble, quoi. C'est ça que je trouve cool. Il y a certaines villes où, genre, si t'appartiens à une certaine espèce, on te laisse pas rentrer. Donc du coup, il va falloir que tu trouves des moyens détournés pour rentrer à l'intérieur ou t'ailles faire autre chose pendant que tes potes rentrent en ville, quoi. Et vraiment, moi, c'est un jeu que j'attends beaucoup pour son mode coop. C'est aussi le problème que j'avais avec le premier quand on y a joué, c'est que moi, j'y jouais en solo à côté. Et pourquoi on n'a pas continué ? C'est aussi parce que moi, de mon côté, j'avais pas mal avancé. Et finalement, ce que je faisais en solo revenait à peu près à la même chose que je faisais avec toi en coop, en fait.
Ouais.
Donc du coup, rejouer deux fois au même jeu, je trouvais pas ça très intéressant. Alors que là, si on a vraiment un mode coop qui est bien foutu et où j'ai une expérience vraiment différente quand je joue avec Mordren et Ben, par exemple, ben là, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup plus que le premier, quoi. Voilà. Donc Mordren, je compte sur toi. Hein.
Je vous ai compris.
Voilà, il y a un appel du pied assez net aussi. Il y a ma faute le podcast où voilà on fait nos appels en direct pour les gens
et tout.
C'est
le podcast des messages à passer, quoi.
Voilà. Bon, allez, on va enchaîner sur la suite et on va parler maintenant de Resident Evil Vendetta Z, mon cher ATH.
Alors, pour accompagner la sortie du film prévu cette année, mettant en scène Leon S. Kennedy et Chris Redfield, Capcom a eu la bonne idée de proposer une expérience VR qui sera disponible donc le 26 mai uniquement sur le store japonais. Ça sera donc une expérience qui permettra de jouer à l'infecté lui-même. Il propose cette expérience gratuitement, alors que on parle quand même de Capcom, le mec qui te fait payer le moindre kimono dans Street Fighter quand même. Et je te parle même pas des DLC qui sont déjà présents sur les disques quand ils sortent en magasin. Enfin bref, voilà. Donc Capcom à fond dans la VR.
Bah déjà, c'est un des seuls éditeurs à proposer un vrai jeu entier en VR. Donc on sent qu'ils sont à fond dans Pixel. Je crois que tu avais quelque chose à dire sur
ouais, sur l'état de la VR en ce moment ou du PSVR. Alors ça s'annonce bah pour l'instant, c'est la VR, c'est pas tant à la mode que ça hein, de ce que j'ai pu en remarquer. Je me souviens avoir dit dans un ancien numéro de Game Info que 2017 allait être certainement l'année de la VR.
C'est mal parti, hein, je veux pas te dire.
Bah c'est mal parti justement, je me suis peut-être planté dans mes pronostics, je pense bien parce que on est à la moitié de l'année. Le PSVR certes, même si c'est bien vendu au début, moi, je commence personnellement à en voir plein d'occasions dans les magasins Easy Cash et compagnie, sur eBay, sur Le Bon Coin, tout ça. Et je commence à en voir beaucoup. Des gens qui revendent le pack complet. Parce que, y a des jeux qui sont sortis au début, mais il n'y a pas de grosse annonce pour cette année en VR. En tout cas, pour le PSVR. Et pour les autres casques de réalité virtuelle sur PC, on n'entend rien, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est le calme plat pour l'instant. Alors peut-être que c'est l'été qui arrive et que les mecs préparent leurs grosses cartouches pour la rentrée. J'espère pour eux qu'ils le fassent. Parce que s'il n'y a pas de grosse annonce à la rentrée, je pense que la VR, c'est dommage que ça arrive, mais ce sera peut-être un
souffle pour une prochaine
qui va retomber, quoi. Ouais, ça sera pour une prochaine fois, peut-être
dans 20
ans. Pour 2018.
Perso, je pense pas que ce soit tant un four que ça pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs gros problèmes. Dans un premier temps, le prix, qui est assez excessif lorsqu'on parle en tout cas d'Oculus ou de Valve. Enfin, c'est assez compliqué dans le sens où t'as juste le PSVR qui est assez accessible, mais dans tous les cas, va y avoir en fait une évolution dans le sens où même à marketer, c'est complexe. C'est-à-dire que tu peux pas marketer un jeu VR, il faut vraiment le tester pour voir ce que ça donne. Et niveau prix, après t'as Microsoft aussi qui va rentrer dans la partie en fin d'année avec des casques moins chers. Donc là on va être sur du 300€, t'auras pas besoin de caméra à côté, t'auras les manettes spécifiques livrées avec, donc les premiers ce sera Acer qui va s'en occuper. Donc t'as pas mal d'évolutions, t'as tous les acteurs qui sont sur le marché. Quand on voit l'équipe que met en place Oculus avec au niveau de la création Jason Rubin, l'ancien de chez Naughty Dog, enfin t'as pas mal de gros noms qui sont à fond en train de travailler dessus en ce moment même. Donc je pense que on est sur un démarrage léger, mais ça reste normal par rapport au prix, au marketing, et de toute façon il y a d'autres acteurs qui arrivent encore dessus avec des prix bien plus compétitifs. Donc je pense que fin d'année 2018 ça va encore monter, mais ce sera progressif et pas un gros boom comme on aurait pu s'y attendre.
Moi, mon problème avec la VR pour le moment, il est simple: où sont les jeux? C'est toujours la question que je pose, hein, je suis désolé, mais j'insiste parce que en dehors de Resident Evil, je veux dire, où est la killer app Parce que c'est ça le problème de la VR. Où est le jeu où tu te dis, putain, il faut que j'achète un casque VR pour ça? Où est le jeu qui te vend du rêve? Moi, j'en vois pas, je suis désolé. Parce que même Resident Evil, honnêtement, ouais, bon, déjà, c'est un jeu d'horreur, et à mon avis, même si moi, ça me plaît, je suis pas sûr que les gens, enfin, tu sais, ce soit le système seller qui va faire acheter de la VR en masse, quoi. Et d'une manière générale, moi, je suis désolé, ludiquement, pour le moment, la ludothèque, elle envoie pas du rêve, quoi. T'as 3 milliards d'expériences qui sortent en ce moment, et c'est ça mon problème avec cette news, mais avec la VR en général, quoi. Parce que là, pour le coup, on peut pas accuser Capcom de pas avoir tenté des choses, mais d'une manière générale, je trouve qu'actuellement, les acteurs sur le marché n'ont pas envie de se mouiller, quoi. Enfin, les développeurs, j'entends, hein. C'est-à-dire que, pour le moment, on n'a aucun gros studio, à part Capcom, qui a envie de s'essayer à un gros jeu, tu vois, un gros jeu VR qui te dit, ok, là, maintenant, je vais sortir la carte bleue, ça va me coûter un rein, mais au moins, je vais pouvoir tester la VR. Et moi, pour le moment, je suis désolé, mais la VR, au-delà de toutes les histoires de prix, même en mettant ça de côté, je trouve que ludiquement, ça fait pas du tout envie, quoi. Voilà. ATH.
Il faudrait qu'un acteur, en fait, décide de faire des jeux à perte, on va dire, pour un moment, pour qu'ensuite, il puisse avoir un développement de la VR. Mais ça, ça ne peut être fait que par un gros mastodonte, par exemple, je pense, un acteur comme Valve ou bien Sony, qui peuvent se permettre de perdre de l'argent pour démocratiser leur technologie. Par exemple, on va penser à Sony, qui va sortir uniquement des expériences sur le PSVR. Et de même pour Valve, par exemple, avec son HTC, qui va négocier des jeux qui vont être disponibles que pour cette plateforme-là, justement pour.
Alors
que...
moi, je vous le dis tout de suite, Valve ne comptait pas dessus.
Non, mais moi, enfin, à part ça, enfin, pour que ça décolle, je ne vois pas d'autre solution en fait. Et c'est ça qui est triste.
Ouais. Dwayne.
Ouais, ouais, non, mais on est d'accord sur le fait que pour l'instant, il y a pas de gros jeux, etc. Mais après, il faut voir aussi qu'il y a de nouveaux langages à créer. Là, c'est en train de se mettre en place. Il y a quelques petites expériences qui sont effectivement assez sympas que j'ai pu tester sur PSVR. Il y a par exemple Farpoint qui vient d'arriver. C'est encore, on va dire, une pierre à l'édifice. Après, il y a aucune grosse expérience qui te font dire, comme tu l'as dit, ça y est, là, c'est une grosse expérience, j'ai envie de m'acheter tel ou tel casque. Et il y a aussi le fait que ce soit compartimenté, c'est-à-dire que Oculus a ses propres studios. Par exemple, j'ai vu un truc assez intéressant, il y a Ready at Dawn, ceux qui avaient fait The Order. Donc bon, après, ça vend pas forcément du rêve, mais ils se sont mis sur la VR, et là, ils sont en train de créer une aventure spatiale qui s'appelle Lone Echo, un truc comme ça. Et du coup, ouais, il recrée un nouveau langage, c'est vraiment un gros jeu, là. Du coup, c'est vraiment Oculus qui s'en occupe, sachant que le développement de jeu, ça prend déjà du temps à la base. Moi, je reste assez confiant sur le fait que ça va monter petit à petit. Enfin, en tout cas, au niveau des devs, je vois de plus en plus de projets qui restent intéressants, enfin, qui sont toujours en cours de développement, mais il y aura aussi un nettoyage, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, par exemple, Valve, l'HTC Vive, je pense pas qu'il va durer très longtemps. Au bout d'un moment, il va sortir, donc ça va encore laisser un peu d'espace pour les autres afin de pouvoir monter, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait allez, deux acteurs qui vont rester sur le marché, ou un seul, on sait jamais, et que ça puisse enfin prendre beaucoup plus d'ampleur.
Par contre, Ready at Dawn, sérieusement non, parce que si les mecs ils nous font un jeu à la The Order, ils peuvent s'abstenir, quoi. C'était juste mon petit message à Ready at Dawn.
C'était juste entre lunettes de passage. Bon, allez, on va maintenant évoquer, mon cher Mandraine, Destiny 2.
Oui. Alors, Destiny 2, qui est donc prévu sur console PS4 et Xbox One le 8 septembre et plus tard sur PC. Et justement, la news concerne la version PC de Destiny 2. À savoir que là où on aurait pu s'attendre que Destiny 2 sorte sur Steam, eh bien pas du tout. Le jeu sera exclusif à Battle.net. Le service en ligne de Blizzard, Blizzard faisant partie de l'entité Activision Blizzard, et Bungie étant édité pour Destiny 2 par Activision, ça a effectivement du sens. Après, est-ce que ça va faire du mal aux ventes de Destiny 2? C'est un point d'interrogation.
Après, je veux dire, ça fait des années que Electronic Arts fait ça avec ses grossissances.
Ouais.
J'ai pas l'impression que ça les ait empêchés de vendre sur PC, et Dieu sait que bon,
ouais,
il faut se faire du mal pour utiliser Origin, quoi. Donc,
En tout cas, ce sera la première fois que un jeu Destiny sortirait sur PC, puisque le premier n'était pas sorti sur ordinateur à l'époque. Du coup,
Il était même pas sorti en dehors de l'exclusivité, il me semble, non? Ou il avait sorti après, je sais plus.
Non, le premier Destiny, en fait, est disponible que sur Xbox que One sur et PS4.
Sur PS3, Xbox 360, PS4 et Xbox One.
Il n'y avait pas une exclusivité à un moment donné?
Ça, c'était les, tu sais, les trucs un peu avec, comme parmi ce qui négocie avec Ubisoft, Sony, c'est juste des missions à la con.
Oui.
C'est pas un truc primordial, quoi, pour le jeu.
D'accord. Alors, à noter quand même que, tout comme le premier, le jeu n'utilisera pas de serveur. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une technologie un peu spéciale où il y a du peer-to-peer, mais il y a aussi des appels sur des serveurs de temps à autre. Donc, bon, écoute, j'ai juste une chose à dire. Le dernier gros éditeur qui s'est passé de serveur sur PC, c'était Ubisoft avec For Honor. On a vu ce que ça donnait. Donc, j'espère que leur super technologie du futur qui va empêcher le shit et tout ça, elle marche très bien parce que... La dernière fois qu'un éditeur a annoncé ça, bah ça s'est mal passé. Donc voilà. Bon, sinon Destiny 2, ouais, c'est Destiny quoi.
Bah ça va être le 1 corrigé en fait. C'est ça, c'est que
voilà, c'est ça.
Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de features qui semblaient acquises pour les jeux multijoueurs, sauf qu'elles n'y étaient pas. Par exemple, un truc qui est assez bête aujourd'hui quand on y pense, le fait de retrouver des joueurs en matchmaking directement, alors que en fait, dans Destiny 1, dans la toute première version en tout cas, les joueurs étaient obligés de se regrouper dans l'espèce de hub pour pouvoir se connecter entre eux et ensuite partir
à la Phantasy Star Online.
C'est ça,
mec.
C'est-à-dire des trucs tu vois, enfin Destiny il avait 10 ans de retard en fait. Avec Destiny 2, ils ont promis que les choses qui devaient être déjà implémentées de base dans Destiny 1 arriveraient. Du coup, en fait, ça fait que bah Destiny 2 finalement, c'est la grosse sortie du premier Destiny qui devrait être là depuis longtemps. Activision, en fait, ça va être un test pour eux avec cette façon de vendre leur jeu sur le site de Blizzard. Et du coup, je me demande quand est-ce qu'ils vont faire ça, par exemple, avec leurs autres licences comme les Call of Duty, etc. Parce que Call of Duty, c'est quand même des ventes non négligeables. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que Activision doit donner des royalties à Valve. S'ils peuvent s'en passer, ils vont pas se faire chier, quoi.
Ouais, comme Electronic Arts avec Origin.
Exactement.
Morlaine.
Mais c'est exactement ce que je voulais dire en fait, puisqu'on se rappelle de justement septembre 2016 où on nous annonçait que Battle.net justement allait changer de nom. Et ben on sent qu'en fait c'est la stratégie d'Activision de switcher du Battle.net uniquement Blizzard vers quelque chose qui intègre justement beaucoup plus du catalogue d'Activision en général. Et donc a priori Destiny 2 sera le premier, mais certainement pas le dernier à mon avis. Donc oui effectivement c'est un test.
J'ai envie de dire ça dépendra des ventes.
Voilà. Ça dépendra des ventes, mais quoi qu'il arrive, en fait, le truc, c'est que peut-être que le Call of arrivera à la fois sur Steam et sur Battle.net, ce qui pourrait leur permettre justement de jauger par rapport au total des ventes sur PC combien Battle.net est capable de porter. Donc, à voir.
Alors, maintenant, je vais vous parler de ma news du cœur, n'est-ce pas? C'est une news sur Elex. Alors, Elex, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le prochain RPG des créateurs de Gothic. C'est un RPG en mode ouvert avec 4 factions. Parce que, pour ceux qui connaissent un peu les créateurs de Gothic, c'est un peu leur fétiche. Ils aiment bien faire des RPG, tu vois, où tu dois choisir en plusieurs factions et tout, et... ça aura des influences sur le scénar, etc. Et donc, Elex s'est dévoilé un peu plus cette semaine, puisqu'on a vu une séquence de gameplay où ils voulaient montrer que, bon, ils avaient quand même un peu amélioré les animations, etc. Parce que, pour mes collègues qui sont là et qui ne connaissent pas forcément le jeu, je vous précise que les animations étaient bien pires que ça avant. Et, en fait, pourquoi je voulais parler de Elex? Parce que, autant, moi, c'est un projet qui m'attire, malgré, on va dire... son aspect très allemand, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui ne savent pas, il s'attarde beaucoup sur l'aspect mécanique, si tu veux, mais par contre, tout l'aspect esthétique, on va dire, sur le marché allemand, ils en ont un peu rien à battre. Et Elex, il est un peu illustratif de ça, c'est-à-dire que bon, quand même, techniquement, on va dire que, voilà, c'est un jeu qui fait un peu vieillot, quoi, on va pas se le cacher. Mais moi, la question que je me posais, du coup, c'est que bon, on a un RPG en monde ouvert, double A, parce que visiblement, ils ont pas des milliers des cents, quoi, qui est un peu brut de décoffrage sur son aspect, etc. Et autant moi, ça m'attire, autant je sais pas si ce genre de jeu a sa place aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on est aussi dans une époque où on est beaucoup plus exigeant, et je pense à raison, vis-à-vis de la qualité des jeux à la sortie. Et on connaît les problèmes qu'ont les développeurs de Gothic et de Ryzen avec leurs jeux, c'est-à-dire que, un peu comme les jeux Bethesda, ils sortent souvent dans un état qui est discutable, quoi, on va dire. Et je sais pas si un studio comme ça, qui n'a pas la puissance de frappe d'un point de vue communication d'un Elder Scrolls, quoi, on va dire, peut se permettre de sortir un jeu qui fait vraiment très vieillot sur certains aspects, quoi. ATH.
Ouais, parce que tu parlais de Bethesda, justement, je voulais parler de eux aussi pour comparer. C'est-à-dire que, bah, en fait, moi, quand je vois les animations, ça me choque pas plus que dans les jeux Bethesda, quoi. Ils sont dégueulasses aussi dans un Fallout ou dans un Elder Scrolls. Parce qu'en fait, Bethesda, c'est ce qu'ils ont de plus que... Comment s'appelle le studio, déjà?
Piranha Bytes.
Voilà, ils ont plus de budget communication, mais, enfin, les animations des jeux Bethesda sont absolument dégueulasses aussi. Donc, je pense pas que le problème, ça viendrait de là. C'est que, si t'es pas marketé, bah, t'es pas visible. Et, à une époque, tu vois, des jeux comme ça aurait pu se vendre, on va dire, et être assez rentable. Mais là, je pense que dans ces périodes-là, bah, ça va être très difficile pour lui, en fait, de sortir de la masse. Après, je sais pas si c'est un jeu qui pourra plaire à un public, bah, des jeux Bethesda, justement, tu vois.
Dwayne?
Alors, bah, du coup, moi, ça me fait un peu penser, en fait, à un autre jeu de Deck 13. C'est ceux qui font The Surge, qui est sorti il y a pas longtemps. Et ils avaient fait, voilà, Lord of the Fallen, et ça m'avait vraiment fait penser à ça, mais dans le côté marketing et la position qu'il a, où t'avais un jeu qui avait effectivement certaines ambitions au niveau du gameplay et des mécaniques, mais qui à côté n'avait pas un packaging extrêmement reluisant, quoi. Le jeu a effectivement un potentiel, mais je ne pense pas qu'il va trouver son public, même si... Focus Interactive, par exemple, eux, ils ont pas mal de licences comme ça, comme Styx ou Vampire.
Alors, c'est THQ Nordic, hein, Bandai précise, qui édite le jeu.
Ok. Et du coup, voilà, mais pour revenir à Focus Interactive, ça me fait un peu penser à leur jeu à eux, dans le sens où c'est un peu, comment dire, voilà, vraiment du double A, c'est-à-dire des jeux qui sont un peu polish, mais qui se basent, en fait, sur vraiment des mécaniques précises, mais qui ont pas la puissance de communication d'autres studios, et qui donc malheureusement parfois tombent un peu dans l'oubli, enfin n'arrivent pas à sortir du lot, quoi.
Alors qu'on soit clair, pourquoi je parlais de ça aussi, parce que aujourd'hui, quand tu veux te faire reconnaître, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit t'as un budget com, ce qu'ils n'ont pas, soit ton jeu est tellement bien fini que le bouche à oreille se fait, en fait. Je pense que ce genre de jeu aujourd'hui n'a malheureusement plus sa place, c'est-à-dire que actuellement, ce que je vois, c'est quand même un jeu qui a des animations qui font un peu dater. Connaissant un peu les développeurs, je sais qu'il y aura des bugs à la sortie. Et puis, de toute façon, c'est un monde ouvert, donc il y aura des bugs. Et donc, du coup, c'est malheureusement, je pense que on est à une époque où c'est très difficile d'avoir des ambitions au-dessus de ses moyens, quoi. C'est-à-dire que soit tu fais un truc à la hauteur de tes moyens et tu fais un truc vachement polish, soit il faut que t'aies le budget, quoi. T'as pas le choix. Quand tu commences à avoir, allez, vas-y, on va faire un open world comme un Elder Scroll, mais derrière t'as pas le pognon pour le faire, ben autant à une époque sur PC ça passait, autant aujourd'hui quand tu vois que il y a des polémiques dès que un jeu sort et qu'il est pas polish, je pense que voilà, ça marche plus comme ça, quoi. ATH.
Ouais, je me suis rendu compte que j'ai des médisants en critiquant Bethesda, mais il faut pas oublier qu'un certain Mass Effect Andromeda est sorti et qui était aussi dégueulasse niveau animation. Non, c'était juste pour remettre les choses dans le contexte.
C'était juste pour le plaisir. J'aime bien faire les petits trolls de
juste le petit taquet comme ça au passage.
Il envoie des taquets en mode ninja aujourd'hui.
Non, parce qu'aujourd'hui je sors du taf là. Je viens, je me connecte pour le podcast. J'ai passé une journée de merde, donc je me venge. Voilà.
Donc voilà, tout ça pour dire que personnellement c'est probablement un jeu que j'achèterais. En plus, y a un setting qui est original, c'est-à-dire que c'est du post-apo avec à la fois de la fantasy et aussi de la science-fiction dedans. Et moi je suis très attiré par le jeu, quoi. Donc, c'est vrai que il est quand même. Je vous avoue que même moi qui l'attends, je vais devoir prendre sur moi, quoi.
En fait, on va dire qu'il y a une première barrière à franchir avant de...
Voilà, il faut mettre de côté l'aspect technique, quoi, on va dire. Il faut voir sa beauté intérieure.
Exactement.
Woe to the man who leads my flock astray, says the Lord. We were given so much. This land... This life, our freedom, what's left of it now? Our people felt abandoned, grew weary,
They needed our help. And we didn't listen. But he did. Told them exactly what they wanted to hear. But those falsehoods, lies, his poison, it's driven them from pasture, from the righteous path. Woe to the man who leads my flock astray. For if I am not their shepherd, then I must be the wolf.
On va passer à la suite et on va parler de Far Cry 5, mon cher Dwayne. Far Cry 5 qui a leaké, il me semble, plutôt cette semaine et qui a finalement été dévoilé plutôt aujourd'hui.
Bah oui, comme tout bon jeu Ubisoft, il y a une campagne de communication qui se base sur un premier petit leak, ensuite un gros leak et ensuite un reveal bien trop tôt parce qu'il y a eu deux leaks. Donc c'est voilà. La campagne de base d'un jeu Ubisoft, à part pour leur petite surprise de fin de conférence. Donc en gros, Far Cry 5, on se situe dans le Montana, donc dans une ville fictive de Hope County. Il y a toujours un méchant charismatique, et cette fois, en fait, on va suivre une famille. Donc c'est un culte religieux du nom de Eden's Gate. Il y a un leader charismatique qui est Joseph Seed, et ensuite on va avoir les membres de sa famille, son grand frère qui est militaire, sa sœur qui, elle, est là pour un peu apaiser les troupes qu'ils ont réussi à allier à leur cause. Et donc, après les nouveautés, ben on va avoir une campagne qui sera jouable en coop. Et donc, on va pouvoir recruter, en fait, des alliés. Donc, on a vu le trailer principal et il y a aussi eu trois trailers du studio Blur qui nous montrent, en fait, certains personnages qui font partie de la résistance. Donc, on a eu un pasteur ancien militaire, une barmaid qui est là depuis petite, et en fait, le culte a repris son bar, donc elle va vouloir aussi s'allier à la cause, et un pilote qui, lui, s'occupe de nettoyer les champs d'habitude, et qui, là, va nettoyer...
Il va installer une Gatling sur son uranium, parce que...
Voilà, exactement, il va nettoyer de manière différente. Tout à fait. Et donc voilà, il y aura la campagne qui sera jouable du coup en coop. On va pouvoir recruter les mercenaires, dont ces personnes dont je viens de parler. On pourra créer son avatar. Donc en vrai, ça fait pas de grosse différence parce que dans Far Cry, la personne que tu joues, en général, c'est un mec peu charismatique et en fait, tu te projettes juste en lui. Et c'est toujours.
Disons que là, comme on va pouvoir y jouer en coop, ils avaient pas tellement le choix que de le mettre, quoi. Donc
c'est
voilà.
Ça. Voilà. Donc on aura après une chose de résistance, comme d'habitude, ça montre qu'on va pas changer trop la formule. Le culte va s'agrandir en reprenant la zone, on va reprendre différentes zones, la chose de résistance va monter, ça va faire évoluer l'environnement et l'histoire en fonction du moment. Donc après, comme on a dit, pilotage d'avion, on va dézinguer un peu partout. Apparemment, il y aura des dogfights aériens, donc on verra ce que ça donne. Et puis après, la beauté luxuriante des lieux qui va contraster avec le chaos ambiant.
Et comme d'habitude, ça sera chasse, pêche, nature et tradition, voilà.
Exactement, voilà la recette de Far Cry 5. Alors, impressionné ?
Alors, j'ai un problème, c'est que j'aime bien le setting. Je trouve notamment les vidéos des personnages vachement cool en termes de mise en scène, etc. Enfin, les personnages ont l'air intéressants, en tout cas. Bon, le truc, c'est qu'on n'a rien vu du jeu, et les features qui sont annoncées, rien de révolutionnaire, hein. Mais surtout, ça va faire partie de ces jeux, je pense, à mon avis, qui, malheureusement, étaient déjà en développement quand Breath of the Wild est sorti, et qui vont sortir après Breath of the Wild, et où ça va faire très daté quand tu vas y jouer, quoi. Voilà. ATH.
Alors, Ubisoft. Far Cry. Numéro 5.
Sur le troisième taquet arrive. Voilà.
On dirait qu'il concentre sa puissance pour relâcher.
Donkey Dama.
Non mais Far Cry 3 est sorti en 2012. On a eu ensuite Far Cry 4, Far Cry Blood Dragon, et puis maintenant Far Cry 5. Et puis juste avant, on a eu quand même aussi Far Cry Primal. Moi, Ubisoft, en fait, et c'est un peu les développeurs qui te donnent un truc à manger, tu vois, ils te donnent un petit gâteau, il est bon. Mais à force de manger le même gâteau tous les jours, ça devient écœurant. Et j'ai un petit peu ce même problème avec ce Far Cry 5, c'est-à-dire que j'ai même pas encore fini Far Cry 3 que j'avais acheté, Far Cry 4, excusez-moi, que j'ai acheté il y a 2 ans. J'ai joué à Far Cry 4. C'était exactement la même chose que Far Cry 3, sauf que c'était un environnement différent. C'est-à-dire à la place d'être sur une plage, on était dans des décors montagneux. Je me suis fait chier à un point inimaginable, tellement les mécaniques, je connaissais déjà le jeu par cœur sans y avoir joué plus d'une heure. Et c'est ça le problème en fait avec moi avec Ubisoft, c'est-à-dire que ils font une série qui fonctionne, comme les Assassins, bah ils te l'étalent jusqu'à ce que t'en puisses plus et que ça arrête de se vendre très bien pour qu'ils commencent à réfléchir un petit peu. Et c'est ça qui est dommage en fait, parce que Ubisoft à l'époque quand même, je parle vers 2003-2005, il avait sorti quand même des bonnes premières licences. Par exemple, il t'avait fait le reboot de Prince of Persia, il t'avait fait Beyond Good and Evil, Splinter Cell qui était une claque pour l'époque. Enfin, tu vois, c'est l'Ubisoft qu'on aime bien, le Ubisoft créatif. Mais là, le problème, c'est que, bah voilà, il se repose que maintenant sur 3 licences, Assassin, Far Cry et Watch Dogs. Et à reprendre toujours les mêmes mécaniques du jeu, et comme tu l'as dit, tu vois, à passer après un Zelda Breath of the Wild, mais même avant Zelda Breath of the Wild, il y a même d'autres antécédents, comme par exemple The Witcher 3 en monde ouvert, GTA 5 qui est un monde ultra vivant, et là tu ressors avec des jeux comme ça, avec des PNJ qui sont ultra statiques, une IA qui est complètement conne.
Cela dit, à TH, on n'a toujours pas vu le jeu, hein, parce que là, on a une liste de features, on sait pas s'il y aura des nouveautés, ou nous nous avançons pas trop.
Non mais sérieusement, j'ai besoin de vous faire un dessin à quoi ressemble le jeu. Tu mets
non mais j'essaie d'être modéré à TH, bordel, j'essaie de faire l'avocat du diable, tu vois pas.
Tu ne peux pas être enfin ouais, pour dire l'avocat du diable, tu le fais bien, parce que Ubisoft, je pense qu'ils sont pas loin d'être à ce point-là, quoi, tellement, enfin, pour moi, je tape pas sur les développeurs, mais ils ont plus aucune créativité, quoi. C'est-à-dire en fait, tu prends un moule et tu recopies, et c'est triste.
Voilà. voilà quelqu'un veut prendre la parole?
Après, pour revenir sur Ubi, ouais, effectivement, ça fait en fait partie de leur ancienne stratégie, c'est-à-dire que là, ils se sont recentrés sur le côté game as service, avec les Ghost Recon, Wildlands, For Honor. Comme ils ont dit, ils vont se détacher un peu du côté solo. Il y a Breath of the Wild qui est passé, peut-être qu'ils ont pris des notes, peut-être pas. Je ne sais pas, mais en tout cas là voilà.
Mais c'est trop tard pour prendre des notes.
Je parle pour la suite, hein, là Far Cry, ouais. 5, comme on l'a dit, là bon, t'as essayé de faire l'avocat du diable, mais quand on voit les features, ça va être pareil que. Ouais.
On va dire s'il y a un air de déjà vu, quoi.
Voilà, clairement, ça va être une skin différente. Après moi le settings, enfin le culte, etc., le commentaire qu'on peut avoir, pour moi ça reste intéressant. À voir après à ce niveau-là ce que ça donne. Mais en tout cas, au niveau gameplay et ce qui va se passer. Après, ça reste une formule. Donc, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Ça, après, c'est les goûts varient.
Je note quand même qu'ils n'ont pas parlé de tours.
Ah bah putain, heureusement, parce que là, franchement...
On note quand même qu'il y a des clochers hein, dans le trailer.
Non, mais franchement, je vois mal Ubisoft dire « Ouais, dans notre prochain Assassin, il y aura des tours à escalader, ça va être génial. » Non, mais qui s'est amusé une fois... Enfin, la première fois quand tu montes là-haut, c'est génial et tout, mais quand tu le fais 200 fois dans ce putain de jeu, t'en as vraiment marre de faire ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc vraiment... Mais qui ça amuse, quoi? C'est comme si va ramasser les 100 lettres cachées dans le livre.
Attention les enfants, j'ai lancé un TH sur les mécaniques de jeu Ubisoft, il y en a pour une demi-heure.
Non mais tellement il y a plus rien à dire, quoi. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que les suites qu'ils font de leurs anciens jeux, c'est des parodies des anciens jeux, quoi. C'est-à-dire OK, Far Cry 3, il était génial, Vaas était super intéressant, mais déjà Vaas dans tout le jeu, tu le vois même pas 6 minutes, c'est même pas le méchant principal, quoi, du jeu.
Bah, cela dit, là, je trouve quand même que avec leur système de compagnons déjà les compagnons qu'ils ont présenté, notamment le curé. Moi, j'adore le curé. Hein. Enfin, le mec, il a son flingue dans sa Bible, il ressort avec un shotgun. Ils m'ont vendu le personnage, déjà, hein, je veux dire. Et je me demande quand même si le jeu risque pas d'être plus intéressant du fait que t'auras des compagnons qui auront une personnalité, quoi. Donc, après, moi, ce que je me pose comme question, c'est comment ils vont gérer ça, quelles interactions tu auras avec eux. Parce qu'apparemment aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, quand même, il y a l'idée que tes compagnons auront chacun des compétences spéciales, y compris quand tu joueras avec des joueurs. Donc il y a peut-être une idée de spécialisation là-dedans. En fait, moi, concrètement, ce qui m'attire le plus dans ce nouveau Far Cry, bah, c'est à peu près la seule nouveauté qui est présentée. C'est-à-dire que voilà, tu vas pouvoir jouer avec d'autres personnages, qu'ils soient joués par des joueurs ou par une IA. Et du coup, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont mettre comme mécanique pour rendre ça intéressant, quoi.
Mais en fait, jouer avec des personnages en coopération, c'était déjà le cas dans Far Cry 4 aussi, tu vois. Enfin, c'est pas une nouveauté, en fait.
Ah bon? Bah, autant pour moi. J'ai pas joué à Far Cry.
C'est pour ça que je dis qu'en fait, ils essaient de vendre ça comme une nouveauté. En fait, non. Parce que c'était déjà présent dans le, peut-être que là, ça va être plus poussé, éventuellement. Mais on avait déjà cette feature-là qui était
ça gérait comment dans Far Cry 4 juste
en fait dans Far Cry 4 t'avais un tu pouvais appeler je crois de mémoire un tu pouvais appeler un compagnon à l'aide de tickets ce qu'ils appellent ça et du coup le compagnon il te rejoignait dans ta partie ça pouvait être même une IA en fait et c'était un personnage qui était déjà présent dans Far Cry 3 qui venait te rejoindre si c'était l'IA ou sinon tu demandais par exemple à un de tes potes de venir te rejoindre directement sur ta partie, ils venaient, ils te rejoignaient, et puis vous faisiez des missions en fait ensemble. Et, après, je t'avoue que j'ai pas plus testé la feature que ça, donc là peut-être que je dis d'énormes conneries. Mais il me semble que c'était déjà limité à 2 joueurs. Mais ouais, mais c'était un truc qui était déjà présent. Après, tu vois, enfin, honnêtement, quand tu as parlé par exemple des personnages avec le curé, tout ça, qui ont des compétences spéciales, on sent bien le mec qui a joué à Persona, quoi, parce que faut pas, je pense pas que tu vois les compétences que tu vas débloquer avec les personnages, ça va être, je pense
non,
que ça
non,
va
non,
être.
Non, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué. Dans le communiqué qu'ils ont envoyé, hein. C'est pas par rapport à personnage, je dis ça. Hein. La question que je me pose, c'est justement, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme compétence? Est-ce que ça va être de l'ordre de l'anecdote? Ou est-ce que il y aura une notion, tu sais, de build? Ou, un personnage, en fonction du joueur, de ce que t'as mis dedans, ben, tu joueras pas du tout de la même manière, voilà.
Je vais te dire un jeu qui avait un personnage de curé génial, les personnages étaient super bien, c'était, Mafia 3. Le personnage du curé, dans Mafia 3, voilà, c'est un afro-américain, le personnage est génial et tout, si tu veux, mais le jeu était nul. Ok, peut-être que les personnages dans Far Cry 5 seront intéressants, mais les mécaniques ne vont pas être révolutionnaires pour un sou, quoi. À moins qu'il y ait une grande révolution dans la série, mais on va dire qu'on connaît Ubisoft, quoi. Et c'est ça qui est... Enfin, moi, franchement, ce qui est triste avec Ubisoft, c'est le manque d'ambition pour leur prochain jeu. Ils ont fait des trucs sympas, mais c'est que du côté du online avec, par exemple, Rainbow Six, etc., qui sont des licences qu'ils ont remis un peu au goût du jour avec des mécaniques qui n'ont pas été trop pompées, par exemple, sur les Call of Duty, etc. Même For Honor a le mérite d'être original, pour le coup, en multijoueur.
Ah bah, pour le coup, For Honor, tu peux pas faire plus original que ça. Hein.
Quand Ubisoft fait des trucs comme ça, je suis d'accord, tu vois, même si c'est pas un jeu qui va m'attirer, au moins, je serais plus tenté d'acheter un produit comme ça, bah, qu'une unième soupe avec un autre chiffre bis qui est ajouté à la suite, quoi.
Quelque chose à ajouter, messieurs? Pixel, est-ce que tu veux libérer le montagnien?
Ouais, le seul truc qui m'intéresse, en fait, c'est le côté, on va dire, subversif du contexte.
Mmh. Ouais, ça aussi. Qui plaît. D'ailleurs, je précise, les fachos américains sont déjà dans les tours. Hein.
Moi, ce qui me fait beaucoup rire, en fait, c'est qu'ils ont jamais été nommés, rien du tout, mais ils le prennent pour eux. C'est quand même marrant.
Ouais. Bah, surtout qu'il y a des noirs dans les trailers, hein, je veux dire, voilà, donc bon.
Voilà, tout ça pour dire que, bah, justement, c'est, je veux dire qu'il y avait déjà des psychodramas sur le net à cause de ça, et que ça me plaît bien, ce jeu, le contexte est subversif, mais je pense que je connais déjà la scène finale contre le prêtre, je sais déjà comment ça va se terminer, je suis sûr et certain que ça va être un combat, genre, l'église va être en feu, lui, il va être là, il va certainement être défiguré parce qu'il va être brûlé, et tu vas te battre en mano à mano avec lui, puis genre, tu vas lui planter un couteau dans la gorge, ou genre, c'est une connerie comme ça, et ça va se finir comme ça.
Non, mais la vraie question, Pixel, voilà. C'est pas ça, c'est de savoir si, vu qu'on va avoir un avatar, est-ce qu'on pourra jouer un avatar féminin, parce que, rappelons-le, dans Assassin's Creed Unity, c'était très compliqué à faire.
Oui, ça a été confirmé, tu pourras jouer une femme.
Ah, donc du coup, c'était pas si difficile que ça, alors.
Oh, merde.
Non, mais c'est, alors, il a pas tort, hein, c'est effectivement...
Ouais, non, bon, ça, c'était une putain de
comme
polémique.
Comme quoi, quand Ubisoft veut bien s'y mettre, voilà. Bon, voilà, en tout cas, ça a l'air intéressant pour le setting, quoi, on va le dire. Mais après, faudra voir concrètement ce que ça donne le gameplay. Pour le moment, ça ressemble quand même beaucoup à un jeu Ubisoft. Après, je suis sûr que ça se vendra, qu'on soit clair. Même si nous, on est tout le temps là à râler, machiner, je suis sûr que ça se vendra. Voilà.
Et puis on va y jouer.
Moi, je vais l'acheter.
Honnêtement, les gens, ne serait-ce que pour l'aspect balade, on a tous vu que Ghost Recon Wildlands s'était vendu parce que les mecs se baladaient en Bolivie, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'achèteront rien que pour ça déjà. Bon, quelque chose à ajouter, messieurs ?
Non, c'est bon.
Ah si, j'avais une dernière chose à ajouter, l'aspect guerre civile en plein milieu des États-Unis, je vous avoue que va falloir trouver du solide pour justifier ça, hein, d'un point de vue scénar, mais bon.
Bah, il y a Donald Trump à la présidence.
ou peut-être qu'ils ont engagé le scénariste de Homefront.
Oh, ah, merde. Peut-être. Oh là là, oh merde. C'est bon, game over.
Bon, je crois qu'il est temps qu'on s'arrête là, messieurs. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Il fait chaud, donnez-moi de la glace.